y a une vie après normale.
Chers auditeurs, nous sommes dans les bureaux aujourd'hui d'Europe 1 à Paris et nous avons le plaisir d'être reçus par Denis Oliven. Denis Oliven, bonjour. Vous êtes président d'Europe 1 pour une nouvelle émission aujourd'hui en notre compagnie de « Il y a une vie après normale ». Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Transistor, la web radio des étudiants de l'ENS Lyon. Il y a une vie après normale, vous intégrez l'ENS à Fontenay-Saint-Cloud en 1980. Vous en sortez agrégé de lettres. Vous décidez de poursuivre votre formation à l'Institut d'études politiques de Paris avant de présenter l'ENA. Vous entrez donc à l'ENA et vous sortez 3 ans plus tard parmi les meilleurs. Bon, alors, on voit bien un parcours très brillant, mais en somme assez typique pour un normalien qui décide de ne pas se consacrer à l'enseignement, puisque vous complétez le fameux trio du succès ENS, Sciences Po, ENA, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais s'il y a une vie après normale, qui d'ailleurs dans votre cas est passionnante et que nous allons aborder, il y a aussi chez vous une vie avant normale, qui est d'ailleurs pour le moins assez haute en couleur. C'est d'ailleurs par cela que j'aimerais commencer, Denis Oliven, puisqu'on écoute un extrait tout de suite d'un reportage donc, qui est donc à votre attention lors de l'un de vos passages dans le supplément chez Canal+.
Salut, bonjour Patron Doré.
Bonjour Marc.
C'est la première fois qu'il vient vous dire bonjour.
Non, même pas.
Denis Oliven, 54 ans, un homme marqué depuis toujours par un événement, mai 68.
Moi, j'ai été élevé dans l'atmosphère ultra-libertaire de parents qui étaient quasiment des beatniks, en fait, ou l'équivalent. Ma mère était au MLF, ils étaient psychanalystes, ils étaient vraiment libertaires. Et donc, ça donne ça, un gars avec une cravate.
Denis Oliven, ou l'histoire d'un patron boxeur qui n'a pas toujours été en costume-cravate. Denis Oliven est un homme qui s'est politisé très tôt à gauche et même à l'extrême gauche. Son ami, le député PS Henri Weber, peut en témoigner.
Il était dans les comités rouges. Et il était sympathisant de ce qui allait devenir le NPA aujourd'hui, mais qui était la Ligue communiste alors, que j'avais l'honneur et le privilège de diriger avec Alain Krivine. Et il y était aussi beaucoup pour la bagarre.
Donc c'est un bagarreur, quoi.
Un redoutable bagarreur.
Une bonne droite ?
La gauche n'était pas mauvaise non plus.
L'engagement précoce du bagarreur se déroule sous les yeux de son grand frère. Leurs parents sont séparés, leur cadre de vie est étonnant.
On habitait dans un appartement seul, en face de l'appartement de notre mère et de notre beau-père. Donc, je pense qu'on a été indépendants très jeunes. On avait aussi des grands-parents qui étaient très importants dans notre vie, des anciens militants communistes très engagés. Et mon frère Denis, par exemple, je sais, discutait beaucoup avec mon grand-père maternel.
L'adolescent curieux va devenir un étudiant brillant. Après avoir fait l'ENA, il devient l'une des plumes de Laurent Fabius, écrit des livres et passe à la télé.
Denis Oliven, normalien, énarque.
Un parcours très engagé et très jeune. Dès vos 15 ans, vous étiez donc déjà dans la rue battant le pavé, tel un Gavroche pour changer le monde. D'où vous vient cet engagement? Est-ce que c'est un engagement directement familial que vos parents vous ont transmis? Jusqu'à quand avez-vous porter ces idéaux sous cette forme-ci. L'étiez-vous encore, donc trotskiste, hein, puisqu'il s'agit de la LCR, lorsque vous étiez rentré à l'école?
Non, j'étais plus du tout trotskiste quand je suis rentré à l'école, mais d'où ça vient
d'un élan de justice en moi que j'ai toujours ressenti depuis aussi loin que remontent mes souvenirs, mais qui était évidemment renforcé ou stimulé par une culture familiale très engagée politiquement. Mes grands-parents étaient des militants communistes, ma mère était une militante communiste, mon père était un compagnon de route du Parti communiste, donc il y avait une culture familiale d'engagement à gauche, et puis qui était, au-delà de cette stimulation familiale, qui était renforcée encore par le contexte des années dans lesquelles j'ai grandi. Moi, je suis né en 1960, donc ma conscience politique s'est vraiment exprimée à l'âge de 13 ans, donc c'était 1973, et à l'époque, en tout cas dans les lycées parisiens, c'était pas si longtemps après mai 68, et il y avait la queue de la comète gauchiste, et donc les manifestations organisées par l'extrême gauche réunissaient des milliers et des milliers d'étudiants et lycéens. La Ligue communiste révolutionnaire, le mouvement d'Alain Krivine était très 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 puissant dans la jeunesse, en particulier dans les lycées, et donc voilà, donc c'est ce contexte, c'est la rencontre d'une personnalité cultivée par un milieu familial et qui est entrée en résonance avec une époque. Cela étant, à mesure que, disons entre 13 et 16 ou 17 ans, c'était un sujet de préoccupation centrale pour moi, mais à mesure que j'ai commencé à m'éveiller aux choses de l'esprit, à m'ouvrir intellectuellement, à avoir un autre horizon, j'ai mis à distance cet engagement gauchiste, trotskiste, et je suis devenu assez, disons, vers l'âge de 17 ou 18 ans, j'ai viré vers la social-démocratie, ou disons vers le réformisme plutôt que la révolution. C'était très très fortement influencé par mon ouverture de compas intellectuels, la classe de terminale, la philo, la lecture de gens, d'autres choses que la vulgate marxiste. Et à partir de là, je suis devenu, disons, social-démocrate, et quand je suis entré à l'école... j'avais adhéré au Parti Socialiste en terminale, je crois, en terminale, en Hippocagne, mais j'étais encore à l'extrême, à l'aile gauche du Parti Socialiste, et puis progressivement j'ai lentement dérivé.
Alors, est-ce que vous diriez pour autant que l'intellectuel a remplacé de ces années-là le militant?
Très certainement. L'exercice de la raison critique, l'ouverture du compas intellectuel, la lecture d'un certain nombre d'éléments d'histoire, l'histoire des totalitarismes, l'histoire de l'Union soviétique, la lecture de philosophes qui étaient assez loin du marxisme, évidemment, et puis la lecture de la sociologie, et puis la découverte de l'économie, tout ça ont assez fortement changé mon point de vue. Donc je dois au gauchisme beaucoup de choses, et en particulier chez les trotskistes, il y avait un très grand goût pour la chose intellectuelle, mais je dois à la chose intellectuelle de m'avoir fait échapper au gauchisme.
Plus en avant, comment s'opère l'idée en vous, comment germe en vous l'idée d'aller faire l'ENA, de rentrer dans, quelque part, l'école du pouvoir pour céder à des formules journalistiques, mais en même temps pas si fausses que ça?
D'abord, moi je viens d'une famille qui n'avait... pas les habitus, pour reprendre la terminologie bourdieusienne, qui n'étaient pas sociologiquement dans lesquels on savait. Ma famille ne connaissait pas l'école normale supérieure, mes grands-parents étaient des gens très modestes, mes parents étaient des médecins, mais assez coupés de la société parisienne. Et donc j'ai découvert l'existence de l'école normale supérieure parce que les hasards de la carte scolaire, mes parents habitaient le 5e arrondissement, le lycée du 5e arrondissement, c'était Henri IV, et donc une fois que vous êtes Henri IV, vous êtes pris assez naturellement dans une mécanique qui vous conduit, quand vous êtes bon élève, à faire une Hippocagne et une Cagne. Mais c'est mes profs de terminale, et en particulier mon prof de philo, qui m'a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. J'ai découvert, je crois, l'existence des écoles normales supérieures en terminale. Donc j'ai fait l'école normale supérieure, et à l'école normale supérieure, j'ai rencontré un copain qui est resté mon meilleur copain, et dont le père avait été un très très grand haut fonctionnaire, Simon Norin. Qui avait été au cabinet de Mendès France, qui avait été au cabinet de Chaban-Delmas ensuite, enfin qui est une des très grandes figures de la haute fonction publique. Et donc par ce copain, j'ai rencontré Simon Norin, et moi j'étais encore un peu gaucho quand je l'ai rencontré. Donc je me disais, rencontrer Simon Nora, mais Simon Nora, c'est un bourgeois, il a travaillé avec Chaban-Delmas, quelle horreur. Et tout à coup, j'ai rencontré un type extraordinairement brillant, extrêmement intéressant, qui avait été dans les maquis de la résistance, qui lui-même avait été trotskiste quand il était jeune. Enfin, il y avait une grande, comment dirais-je, familiarité, proximité, de sensibilité entre lui et moi. Et il m'a pris un peu sous son aile protectrice. Et il m'a dit très vite, mais écoute, compte tenu de ton goût pour la chose intellectuelle d'un côté, mais en même temps de ton goût pour l'action de l'autre, et de l'intérêt que tu as pour l'intérêt général tel qu'il se manifeste dans l'engagement politique, la voie naturelle pour toi, c'est la haute fonction publique, et donc c'est là. Et je dois dire que c'est par lui que j'ai découvert tout ça. Moi, j'ignorais, je crois que je ne connaissais pas l'existence de l'ENA, ou si je la connaissais, ça me paraissait lointain. Et donc voilà, c'est lui qui m'a convaincu de faire ça, et voilà comment je me suis retrouvé à l'ENA. J'ai passé le concours, j'ai été admis. Et...
Vous dites donc à juste titre, entrer dans l'ENA donc après l'IEP de Paris, vous en sortez donc à la Cour des comptes, et vous devenez assez rapidement, si je ne m'abuse, la plume de Laurent Fabius, alors qu'il briguait la présidence de l'Assemblée nationale en 1988. Est-ce que vous pourriez, est-ce que d'abord vous vous ennuyez à la Cour, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette image un petit peu, alors est-ce que c'est une image d'Épinal ou pas, je ne sais pas, mais de quelque chose d'assez assommant, d'assez lourd et de pas très intéressant. Et ensuite, comment est-ce que vous est venue cette opportunité de devenir plume ? Le connaissiez-vous avant ? Comment s'est passée la rencontre ?
Il faut replacer ça dans un contexte. Donc je cesse d'être gauchiste, mais je ne cesse pas d'être engagé. J'ai occupé des fonctions à la tête des étudiants socialistes et des jeunes socialistes. J'ai milité activement pour la victoire de François Mitterrand en 1980. Et cette victoire acquise, je me suis dit, bon, maintenant je vais me concentrer sur moi. Et je vais m'occuper de mes études. J'avais intégré entre les deux Normale Sup, Lyon, Saint-Cloud à l'époque. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, la victoire est acquise. Ils vont changer la vie, mais moi, je vais changer de vie et je vais passer mes études. Mais je n'avais jamais lâché mon intérêt pour l'engagement. Enfin, je veux dire, il faut se replacer dans le contexte d'une époque où on pensait vraiment que la gauche allait changer la vie, changer la société, transformer le monde. Et donc j'étais désolé de ne pas y participer. On m'avait d'ailleurs proposé en 81 de participer à des cabinets, mais j'avais fait le choix raisonnable de d'abord faire mes études. Je sors, bon, il y a l'ENA entre les deux, je sors de l'ENA en 88, c'est-à-dire 7 ans après. Certes, on est revenu d'un certain nombre d'illusions, mais on a encore l'idée que les choses vont changer. Et Fabius a été le dernier premier ministre de la première phase de Mitterrand, et celui qui incarnait, un peu comme Rocard à l'époque, une gauche modernisatrice à laquelle je m'étais moi-même converti à l'époque, une gauche réformiste. Des copains qu'on avait en commun, Henri Weber, qui était l'ancien patron de la Ligue, et d'autres, travaillaient autour de Fabius, et ils cherchaient quelqu'un pour écrire, et voilà comme ils m'ont proposé de les rejoindre. Mais moi, c'était pas du tout, ça peut paraître étrange, c'était pas un parcours de... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être que c'est pas vrai, que c'est injuste ce que je dis, mais qu'une partie de l'engagement militant a un peu disparu de ces cabinets ministériels, mais à l'époque, il y avait encore un engagement militant. Donc je faisais pas carrière, je rejoignais une équipe dans laquelle j'avais des copains et qui allait porter une gauche modernisatrice, réformatrice, et voilà. Voilà comment je suis arrivé au cabinet de Fabius. Et ensuite, comment je suis arrivé je me suis lié à tout un tas de jeunes gens qui étaient comme moi, soit fabusiens, soit rocardiens, et qui avaient envie de transformer la gauche pour transformer la France. Parmi ceux-là, il y en avait un qui était au cabinet de Bérégovoy. À un moment donné, il a quitté le cabinet de Bérégovoy pour partir à l'Élysée. Il cherchait quelqu'un pour le remplacer au cabinet de Bérégovoy, pour être la plume. Et voilà comment on me l'a proposé, voilà comment je suis arrivé au cabinet de Bérégovoy.
Pierre Bérégovoy, qui était à l'époque ministre de l'économie et des finances ou déjà Premier ministre ?
Qui était ministre de l'économie et des finances. Mais qui était ministre de l'économie et des finances. J'ai oublié d'ailleurs un élément qui est important, c'est que parallèlement à cette activité politique, disons, j'avais maintenu une activité intellectuelle, technocratico-intellectuelle, parce qu'il y avait à l'époque un truc qui s'appelait la Fondation Saint-Simon, qui avait été fondée et créée par François Furet, par Pierre Rosanvallon, et qui était un cercle de réflexion de gauche, en tout cas Rocardo Delorien ou Rocardo Baris, je ne sais pas comment dire, dans lequel il y avait des intellectuels, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, et qui essayaient de produire un corpus d'idées pour la modernisation et la réforme de la France.
Ce qu'on appelle aujourd'hui un think tank, en fait.
Voilà, exactement. Mais c'était le premier du genre, d'ailleurs. Enfin, il était plutôt le continuateur de ce qui avait été dans les années 60 et Club Jean Moulin. Donc c'était ce qui restait du mindésisme, l'idée que par les idées, on peut transformer la société. Et donc moi, j'avais été... Rosan Vallon était l'animateur. Pierre Furet était le président. Rosan Vallon, le directeur général, si j'ose dire. Et moi, j'étais l'artisan... l'ouvrier de cette fondation, et notamment on produisait régulièrement des notes qui ont eu beaucoup d'influence, certaines d'entre elles, à l'époque, dans le débat public. Donc j'avais ce pied-là aussi, j'avais pas l'activité militante, l'activité intellectuelle et l'activité professionnelle, tout ça était coordonné.
Vous le suivez lorsqu'il arrive Premier ministre, et alors là, vous décidez quelques années après, puisque en 1993, donc en fait peu de temps après, vous décidez de partir dans le privé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir changé comme ça d'optique à 32 ans?
Pourquoi? Ça a été l'expérience Bérégovoy, avec qui j'étais très lié, a été à la fois très instructive et d'une certaine manière très tristement instructive. Instructive parce que j'ai mesuré... l'extraordinaire résistance à la réforme, en particulier de la gauche de l'époque. Je vais vous dire la conclusion que j'en ai tirée. Et deuxièmement, j'ai aussi mesuré ce qui me paraissait la dérive du milieu politique de la gauche, que moi j'avais connu à son époque romantique et militante. Lorsqu'on préparait la victoire de Mitterrand en 81, et puis 7 ou 8 ans plus tard, ou un peu plus, 10 ans plus tard en l'occurrence, je retrouvais un appareil socialiste qui, corrompu entre guillemets, pas au sens de la corruption financière, mais corrodé, disons plutôt, par l'exercice du pouvoir, avait abandonné ses idéaux pour devenir une machine à fabriquer des professionnels de la politique. Cynique, trouvais-je, en conflit les uns avec les autres, conservateurs pour beaucoup d'entre eux, et la façon dont ils ont traité Bérégovoy, et ça a d'ailleurs mal fini, ne me les rendait pas sympathiques. Donc je suis sorti de là. On m'a proposé à l'époque de rentrer dans la politique active, on m'a proposé une circonscription, pour dire les choses clairement, mais j'avais eu aucune envie de faire ça, c'est-à-dire de devenir un professionnel de la politique dans un parti qui me paraissait avoir perdu ses idéaux et qui, de toute façon, n'était pas sur la ligne réformatrice qui était la mienne. Donc quand je suis sorti de là, j'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai essayé de revenir à la Cour des comptes et j'ai écrit une note pour la Fondation Saint-Simon que j'ai intitulée « La préférence française pour le chômage » et qui était une analyse de pourquoi est-ce que... pourquoi, en gros, pour le dire de manière provocatrice... le chômage était non pas un problème en France, mais une solution. La solution qu'on avait trouvée pour garder de manière conservatrice un certain nombre de structures qu'on faisait payer à la population non qualifiée et qu'on refusait de regarder clairement... Enfin, que la classe politique en général, la gauche en particulier, refusait de regarder clairement les réformes qui eussent été nécessaires pour lutter efficacement contre le chômage. À l'époque, ça a été une déflagration. Je crois que le terme de social, de libéral de gauche, est né à ce moment-là. Donc c'était... on est en 93. Hein. Aujourd'hui encore, c'est une insulte. Mais vous imaginez ce que c'était en 93. Compte tenu de tout le chemin qui a été fait depuis, par Schröder, par Blair, etc. À l'époque, la gauche française était complètement enquistée dans ses archaïsmes. Et donc, il y a eu une double rupture pour moi avec la vie politique, une rupture morale, parce que je n'aimais pas ce que j'avais vu de cette fonctionnement de la classe politique, et une rupture intellectuelle, parce qu'il me paraissait que la gauche n'était pas en situation de développer un programme réformateur conforme à ce qu'aurait été son idéal. Et donc, je me suis dit, Où est-ce qu'on peut agir utilement que si je me lance dans un combat politique, il va me falloir 40 ans, peut-être dans le meilleur des cas, pour arriver à réformer la gauche, et après, est-ce qu'elle arrivera à réformer la France ? Donc, je veux dire, on va perdre un temps fou. Donc, où est-ce qu'il faut ? Où est-ce que les lignes bougent dans les entreprises ? Dans une entreprise, ça se transforme. Vous prenez une entreprise. C'était un raisonnement qui était un peu théorique, surtout que je ne connaissais pas l'entreprise. Et là-dessus, j'étais à la Cour des comptes, et Christian Blanc est nommé, Air France est en crise, Christian Blanc est nommé à la tête d'Air France. Il y a un conflit, une grève, l'entreprise est au bord de la faillite. Et on connaît des gens en commun qui lui disent « embarque-le », dans des conditions que je vais vous raconter qui sont drôles. Et moi, ça m'a paru une évidente, peut-être parce qu'il y avait le mot « France » dans Air France, mais c'était comme un modèle réduit. Je m'étais dit « on ne peut pas réformer la société par le haut ». En revanche, là, il y a une entreprise publique enquistée dans ses conservatismes et qui va crever. Si on arrive à la sauver, en la réformant, on démontrera que la réforme est la condition de la survie et pas la mort du modèle français. Voilà. Donc il y avait une très très forte, une très très forte cohérence entre l'envie que j'avais de transformer la société et l'occasion qu'offrait la réforme d'une entreprise publique. Et donc, j'ai dit ça à quelqu'un qui connaissait Blanc. Je lui ai dit, écoute, s'il a besoin de quelqu'un, moi je suis là. Et puis, Christian Blanc m'a appelé. Il était dans la sphère de la Fondation Saint-Simon. On avait fait un groupe de travail ensemble. Et il m'a appelé, on se connaissait un peu. Et il m'a dit, voilà, moi je suis là. Je ne sais pas si j'y serai encore dans 2 mois. Il n'y a que des coups à prendre. Je ne peux rien garantir, rien offrir comme perspective à ceux qui me rejoignent en termes de carrière, c'est un choix stupide. Donc voilà, puis il s'est passé un silence, et il a dit vous êtes Lacan, et moi je lui ai dit demain matin. Voilà. Et voilà comment je me suis retrouvé en France. Mais je n'avais jamais vu une entreprise de ma vie, je ne savais même pas ce que c'était. Je veux dire, mes grands-parents n'étaient pas dans les entreprises, et mes parents étaient médecins hospitaliers, donc...
Quel regard portez-vous sur le bilan, la personne de François Mitterrand ? Puisqu'on voit que dans vos influences intellectuelles, vous vous situez beaucoup plus sur une gauche réformiste. Vous parliez de Rocard, vous parliez de Delors. Donc, est-ce que passé peut-être l'excitation du début des années 80 et la victoire, est-ce que vous avez été comme beaucoup déçu ?
Un bilan qui est forcément contrasté. D'abord, je ne peux pas oublier l'incroyable émotion qui a été pour ma génération la victoire de la gauche, parce que pour vous qui vivez des alternances gauche-droite assez régulières, rien d'anormal. Mais nous, la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis 1958. Ça, c'est un bail. Ça a été incroyable du point de vue de la... Donc cette émotion s'est ensuite traduite par une bouffée d'oxygène assez fantastique dans la société française. L'abolition de la peine de mort, l'abolition des tribunaux militaires permanents, les radios libres, l'augmentation des chaînes de télévision. Enfin, il y avait eu une première phase libérale de Giscard dans les années, au début des années 70, avec l'avortement, la majorité à 18 ans. Mais là, tout à coup, la société respirait. Donc cette partie-là du bilan de Mitterrand est assez considérable. L'autre partie qui est assez considérable, c'est la partie... de soutien et de défense et d'illustration de la construction européenne. Et puis sur le plan économique, il y a eu un début de libéralisation, de conversion de la gauche aux réalités de l'économie de marché, même si ça a été imparfait. Donc ça, cette partie-là, c'est quand même, comme disait Marx, l'Union soviétique, il y a un bilan globalement positif des années mitterrandistes. Après, il y a tout le reste. Il y a la politique politicienne, il y a une certaine forme de cynisme, il y a l'amitié avec Bousquet, il y a toute cette partie-là, le côté obscur de la force, qui, moi, n'était pas ma tasse de thé. Moi, je suis fondamentalement... Il se trouve que j'ai travaillé avec Fabius, mais mon élan fondamental, finalement, c'était un élan assez rocardien. Moi, c'était cette gauche-là qui me parlait. C'est une gauche qui, qui est très très mauvaise pour la conquête du pouvoir, parce qu'elle a justement pas ce cynisme, pas cet art de la politique, mais qui est tellement plus juste dans l'exercice du pouvoir. Donc il faudrait qu'elle ait le talent de la gauche cynique pour conquérir le pouvoir. Je ne sais plus quel candidat américain a dit « La conquête du pouvoir se fait en vers et l'exercice se fait en prose ». La gauche réformiste est très très mauvaise pour les Verts. Elle ne peut pas vendre des trucs auxquels elle ne croit pas, elle ne peut pas défendre les 35 heures si elle pense que c'est bidon, elle ne peut pas dire qu'il faut taxer à 75% les revenus si elle pense que c'est ridicule. Et donc son refus de la démagogie est un obstacle pour elle dans la conquête du pouvoir. Mais c'est ça qui fait sa grandeur.
Quel a été votre ressenti, justement, nous l'abordions un petit peu, lors de votre arrivée à Air France, puisqu'on sait, je pense que c'était déjà le cas dans les années 90, c'est une entreprise où il y a une très grande conflictualité qui est traversée par de grandes tensions, puisque le secteur de l'aérien étant très concurrentiel, on joue uniquement sur les leviers du coût du travail. Comment est-ce que vous avez découvert tout ça? Est-ce que vous aviez les armes pour? Comment vous avez appris?
En fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est que quelle est la tâche que m'a confiée Christian Blanc? C'est d'être le secrétaire, en quelque sorte, de l'élaboration et de la rédaction du plan stratégique de sauvetage d'Air France. Donc il y avait tout un tas de gens qui travaillaient, des auditeurs, des sociologues, des spécialistes du social, des forces internes, des forces externes, des banquiers. Et de tout ça, il fallait fabriquer un projet stratégique. Donc, engendrer une vision de ce qu'allait être l'entreprise, des plans d'action. Et donc, moi, j'ai été l'auditeur en chef de la société de ce fait-là. Et du coup, ça a été extrêmement profitable pour moi, parce que j'ai été obligé de désosser, de passer cette société au Radio X, et au passage, de comprendre comment fonctionnait une société. Puisque c'était pas vraiment. Je les avais vus à la Cour des comptes, j'avais fait des contrôles d'entreprise, donc j'étais pas complètement puceau sur le sujet de l'entreprise. Mais là, je la voyais concrètement. Donc, je l'ai d'abord regardé comme un objet de curiosité intellectuelle. Et du coup, après, pour passer à l'action, après, l'étape suivante, il y avait dans ce plan, dans ce projet d'entreprise, il y avait une partie de négociation d'accords sociaux. Avec notamment les pilotes et les hôtesses de l'air, où il fallait obtenir d'eux des gains de productivité. Et Christian Blanc m'a chargé d'être le maître d'œuvre de ces accords. Donc j'ai été jeté dans le chaudron tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il m'a confié ça? Parce que mon expérience politique, pour le coup, elle m'a été extrêmement utile. Il a pensé que ça me permettrait de bien gérer des rapports de force. Voilà, donc je suis rentré assez naturellement. Il y avait une il faut se souvenir que cette entreprise à l'époque d'abord était en état d'insurrection sociale. Il y avait une grève générale, une occupation, et d'autre part était au bord de la faillite. Donc on dormait là-bas, hein. Moi je dormais à l'hôtel à Roissy, on travaillait 7 jours sur 7, 23 heures sur 24, enfin j'exagère mais presque. Et donc on est dans cette atmosphère fiévreuse de « on va sauver cette entreprise ». Et du coup, bah voilà, vous apprenez en marchant.
Pensez-vous que votre passage vers le privé a été facilité par le contexte des années 90, puisqu'on sait qu'à partir de 1986, on a toute une vague de privatisation. Et en même temps, si on prend le cas Air France, on a une privatisation. Et en même temps, l'État ne lâche pas complètement la main. Donc on a une sorte de parapublic peut-être, qui permettrait peut-être à des profils comme vous, qui sont plutôt tournés vers des serviteurs de l'État, de rentrer dans le privé. Pensez-vous que ça a joué dans votre réorientation?
Enfin, moi, oui, parce que je ne crois pas que l'idée me serait venue de passer sans transition de ce que j'avais connu à une entreprise. J'avais pas du tout, enfin jusqu'à peu de temps avant Air France, j'avais pas du tout l'idée que l'entreprise était mon dessein. Si vous m'aviez dit ça à 12 ans, ou à 13 ans, ou à 17 ans, et même au moment où je suis rentré à l'ENA, je n'étais pas du tout dans cette perspective-là. Franchement, rien dans ma culture familiale, dans mon environnement, ne me prédestinait à ça. Et donc, j'ai découvert les vertus de l'entreprise en étant Air France. Et je suis entré à Air France parce que Air France était une espèce de petit modèle réduit d'un projet de réforme pour le pays qui était ce qui me motivait. Donc c'est un concours de circonstances dans mon existence, mais ça a été une transition douce, disons, de ce qu'était mon horizon intellectuel et même sentimental, émotionnel de jeune homme, et ce qu'allait devenir ma vie.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour des jeunes qui sortiraient de l'ENA, qui auraient déjà une première expérience, passer dans le privé, ou même pour des normaliens d'ailleurs, passer dans le privé serait plus difficile ?
Je crois que ce qui est plus difficile qu'autrefois, c'est les pantouflages par le haut. C'est-à-dire le type qu'on balance à la tête d'une entreprise alors qu'il n'en a jamais vu, au motif qu'il est haut fonctionnaire. En revanche, si vous faites ce chemin très tôt, si vous choisissez très tôt, si vous optez très tôt pour l'entreprise, que vous soyez énarque, si vous êtes énarque, c'est que vous êtes un peu plus âgé ou normalien, non, au contraire, l'entreprise a besoin de gens intelligents, bien formés, dont le cerveau tourne bien et qui ont des outils intellectuels. Donc, alors après, un normalien n'a pas forcément, ni un énarque d'ailleurs, les connaissances techniques, n'a pas fait de compta, n'a pas fait de marketing, n'a pas fait de stratégie. Mais enfin, je crois que le pantouflage à l'ancienne, vous avez 45 ans, vous avez été à la direction du budget du Trésor et vous devenez directeur général d'une compagnie d'assurance, ça c'est fini. Les trajectoires comme la mienne sont encore possibles. C'est-à-dire, vous êtes un jeune haut fonctionnaire et vous entrez dans une fonction de cabinet, entre guillemets, dans une entreprise, et puis progressivement, vous passez vers l'entreprise.
Vous aviez déjà cette réputation de, alors je l'ai vu, c'est revenu quelquefois, de cost killer, cette idée de... Est-ce que c'est quelque chose qu'on a construit ? Est-ce que c'est une fiction médiatique là-dessus ?
Ouais, c'est une légende urbaine, mais... En fait, non, mais je me suis aperçu que moi, j'ai toujours été dans des entreprises qui étaient en retournement. Je crois que c'est ça qui m'intéresse. C'est d'entrer dans des entreprises qui vont mal et de faire en sorte qu'à la fin, elles aillent bien. Peut-être qu'inconsciemment, c'est la reproduction du modèle médecin de ma famille. Mais donc, oui, quand vous êtes dans une entreprise qui va mal, en général, il y a un volet de réduction des coûts, de réorganisation, de restructuration. Mais... Je ne me sens pas du tout un cost killer au sens de l'imagerie d'Épinal, de la brute épaisse qui arrive. Et moi, j'ai toujours pensé et toujours mis en œuvre le fait que on ne pouvait pas réorganiser, redresser une entreprise en traitant de manière brutale, inhumaine, moralement inadmissible, les collaborateurs de cette entreprise qui n'étaient pas les responsables de la crise de l'entreprise, qu'on était éventuellement les victimes. Donc le cost killer au sens du type qui arrive et qui fout dehors tout le monde, femmes et enfants, avec beaucoup de cynisme, c'est aux antipodes de ce que je suis profondément. Et lorsqu'il m'a fallu, et je l'ai fait à nombreuses reprises, réduire les effectifs par exemple, je l'ai toujours fait en prenant un soin infini de l'accompagnement de ces mesures, en sorte que les salariés qui quittent l'entreprise, d'une part le fassent sur la base du volontariat, et d'autre part soient accompagnés dans leur reclassement sur le marché de l'emploi pour que la sortie de l'entreprise ne se traduise pas par le chômage. Donc j'ai toujours été ultra attentif à la dimension sociale du redressement des entreprises. Donc de ce point de vue, je ne me sens pas du tout un cosquilleur. Je me sens plutôt un crisis shooter qu'un cosquilleur.
Après votre expérience à Air France, qui a duré quand même 4 années pleines, vous passez chez Numéricable. Et puis, donc 2 ans après, vous arrivez chez Canal+. Et alors là, c'est quand même le début d'une nouvelle étape dans votre carrière, et qui d'ailleurs est toujours en vigueur, puisque vous devenez dirigeant de groupe dans le domaine des médias. Et alors, comment êtes-vous arrivé chez Canal, et pourquoi avoir choisi le monde des médias ?
C'est un pur hasard, une fois encore. J'avais une amie d'enfance qui m'a un jour téléphoné, et qui m'a dit « je vais épouser un gars qui s'appelle Pierre Lescure, tu le connais? Oui, bah évidemment, je le connais. Et j'aimerais bien que tu condines ensemble, j'aimerais bien que tu le connaisses. Bon, bah, je suis dit volontiers. Et puis, j'étais Air France à ce moment-là, et donc on va à ce dîner. Et ce jour-là, des syndicalistes assez très très durs de la maintenance d'Air France avaient séquestré la direction de cette unité d'Air France, qui s'appelait la maintenance. Et donc moi, il n'y avait pas de portable à l'époque, donc j'ai passé le dîner, pendant qu'il dînait au téléphone, à négocier avec la CGT pour qu'il libère ses cadres, à discuter avec la police pour qu'ils investissent l'entreprise, parce que je trouve ça inacceptable de séquestrer des cadres. Bon bref, à la fin de tout ça, Lescure m'a dit, bah, mon petit gars, je sais pas ce que tu penses de mon mariage, mais moi en revanche, si un jour t'en as marre d'Air France, viens me voir. Hein. Parce que Canal+, va aller au-devant de sérieux problèmes, sérieuses difficultés économiques, et on a besoin de gars qui ont ton expérience, qui ont dans le monde des médias, des gens qui ont été confrontés à des organisations d'entreprises, on n'en a pas des milliers. Et comme par ailleurs, par ta formation antérieure, la chose culturelle, t'es pas indifférente, voilà. Bon. Quelques mois après, Christian Blanc a quitté Air France, et moi je me voyais pas rester avec ses successeurs, donc j'ai appelé Pierre Lescure, on s'est parlé, il m'a dit viens travailler avec moi, ou venez travailler avec moi, on se vous voit, et je lui ai dit non, ça j'ai pas très envie, jusqu'à présent j'ai été dans l'équipe d'un dirigeant d'entreprise, mais moi je voudrais diriger vraiment une... Donc est-ce que vous avez quelque part dans votre périmètre une petite filiale, parce que si jamais je me plante, je voudrais pas que ça cause des dommages considérables, qui serait en difficulté et qu'il faudrait redresser. Et puis, si j'arrive, à ce moment-là, on travaille ensemble. Et donc, il venait d'acheter ou de recevoir, je ne sais pas comment c'était fait, je ne sais plus, cette petite filiale de câbles qui était très mal en point. Donc, pendant 2 ans, on l'a rebaptisée, on l'a appelée Numérique Câble, on l'a rapprochée d'autres câbles opérateurs, on l'a redressée. Et donc, voilà. Donc là, j'avais éprouvé 2 choses. Aux yeux du monde extérieur, le fait que je pouvais le faire, enfin du monde extérieur limité à Pierre Lescure, et à mes propres yeux, le fait que c'est ça qui m'intéressait. Parce que à Air France, je m'étais convaincu au fait que c'était passionnant de s'occuper d'entreprises en difficulté et de les sortir de leur ornière. Et donc là, une fois ça fait, la crise de Canal s'exprimait assez fortement, et Pierre Lescure m'a proposé de le rejoindre à la direction générale de Canal, ce que j'ai fait. Et j'ai compris à Canal une autre chose, c'est pour ça qu'après je suis plus sorti de ce secteur, c'est que dans les secteurs, disons, des industries culturelles, jusqu'à présent, que ce soit Air France ou que ce soit, oui, à Numérica, parce que c'était du câble, il y avait, disons, qu'un seul hémisphère de mon cerveau qui fonctionnait, celui qui était consacré à l'entreprise, à la stratégie, mais l'autre hémisphère, disons celui qui s'intéressait au contenu, à la politique, à l'économie, à la culture, celui-là, il était réservé à ma vie privée. Or, dans les médias, les deux jouent. Voilà.
Quel regard portez-vous sur l'actualité avec Canal+? On voit il y a quelques jours que Yann Barthès, aujourd'hui présentateur iconique de Canal, a fait donc l'annonce de son départ pour TF1 à la saison prochaine. Pensez-vous que c'est la mort du Canal+, que moi j'ai connu, gamin, le grand journal à l'époque de Michel Denisot, cet esprit impertinent et qui était déjà là dans les années 90, je pense à Philippe Gildas, ou est-ce que vous pensez que c'est une transformation nécessaire, telle que la voix Vincent Bolloré, dans un redéploiement des activités stratégiques?
Moi je trouve ça drôle, parce que lorsque Pierre Lescure a quitté Canal en 2001 ou 2, je ne sais plus, remplacé par l'équipe qui vient de quitter Canal. L'équipe qui est arrivée disait, ça a été la gabegie, tout ça a été mal géré, c'est fini toutes ces bêtises, une nouvelle ère a commencé, et à l'époque on disait, c'est la mort de l'esprit Canal. Donc ça c'est en 2002, on est 13 ans après, et que se passe-t-il? L'équipe nouvelle arrive, 10 des précédents, ils ont fait n'importe quoi, c'est la gabegie, ils ont conduit à la crise. Et le monde extérieur dit c'en est fini de l'esprit Canal. Donc je pense qu'il y a des cycles de 10 ans dans lesquels une nouvelle équipe arrive, dit que la précédente n'a fait que des conneries, et le monde extérieur dit c'est la fin d'une époque. Faisons le pari, on verra bien que l'équipe actuelle va réinventer un nouveau canal dont l'impertinence existera sous d'autres formes. Barthez, là on voit le départ de Barthez, mais moi j'ai vu le départ de Decaune, le départ d'Alain Chabat, le départ de Jamel Debbouze, le départ de toute une génération qui avait exprimé l'esprit Canal, et on pensait que le nouveau Canal était foutu.
Vous poursuivez cette aventure après donc votre passage à Canal, avec le groupe Pinot Printemps Redoute, et en 2003 vous devenez PDG de la FNAC, la FNAC que nous connaissons tous. Qu'est-ce que la vie d'un PDG ? De quoi est fait le quotidien d'un PDG, alors de la FNAC ou de Canal, mais à Canal vous n'étiez pas PDG. On fait quoi concrètement ?
Je reprendrais volontiers la formule que Rocard avait employée pour Matignon. Il disait Matignon, c'est le terminal des emmerdes. Le bureau du PDG, c'est le terminal des emmerdes. Le PDG fait quoi ? Acte 1, il définit la stratégie de l'entreprise. Et s'il se trompe sur la stratégie, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Acte 2, il met en place une équipe qui met en œuvre cette stratégie. Acte 3, il veille à l'exécution de cette stratégie. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il fixe des objectifs, il définit des plans d'action, il vérifie que ces plans d'action sont mis en œuvre, il corrige la trajectoire, et puis tout ça, ça se traduit par quoi ? Par des décisions. Un PDG, c'est une machine à prendre des décisions. Je vends telle activité, je développe tel produit, je nomme telle personne, je... Voilà. Donc, à la FNAC, qu'est-ce qui... je vais vous donner des exemples très concrets, parce que sinon, c'est pas concret, mais la FNAC était principalement une activité physique en magasin. Elle avait commencé à développer une activité numérique. Et beaucoup de gens disaient, mais attendez, vous êtes idiots, parce que ce numérique, il vous cannibalise vous-même. Les gens qui achètent le store numérique ne vont pas acheter dans vos magasins. Oui, d'accord, mais si vous ne le faites pas, c'est d'autres qui vont le faire. Et donc, on a accéléré le développement numérique. La FNAC était dans les centres-villes et on s'est dit, mais non, les gens consomment aujourd'hui beaucoup dans les centres commerciaux à la périphérie des villes. Donc on a, mais les gens disent, attention, mais si vous ouvrez des FNAC à la périphérie des villes, ce n'est plus la FNAC. Donc on a décidé de développer des FNAC dans les centres commerciaux. La FNAC était... pour prendre un troisième exemple, la FNAC était très très tournée vers son expertise de vendeur et son expertise de produit. Et nous, on a dit, mais c'est fini, ça maintenant, il faut qu'on ait un traitement du client. On ne peut pas simplement maltraiter le client en pensant qu'on lui fait une immense faveur en acceptant de lui vendre des produits. Il faut qu'on inverse la charge de la preuve et c'est à nous de bien traiter nos clients. Et donc tout ça, c'est des idées qui paraissent comme ça simples, mais après, c'est un immense travail d'exécution. Et puis, vous devez veiller à la... l'amélioration des résultats économiques. Moi, quand je suis arrivé à la FNAC, son chiffre d'affaires reculait et ses résultats se dégradaient. Et pendant 5 ans, continuellement, le chiffre d'affaires a progressé et les résultats se sont améliorés considérablement. Ce qui fait plaisir aux actionnaires, mais surtout ce qui l'a garanti de la longévité de l'entreprise. Alors après, elle a connu 1000 révolutions, elle a quand même connu elle-même une nouvelle crise, mais c'était 7 ou 8 ans après.
Comment fait-on pour changer de groupe en groupe ? Puisque, en fait, vous avez l'habitude de ne pas rester très longtemps, si je puis m'exprimer ainsi, dans un seul endroit. C'est-à-dire que c'est le conseil d'administration qui vous propose à un moment de devenir dirigeant. Alors, pour votre passage, par exemple, de la FNAC au Nouvel Obs, puis donc chez Lagardère, poste que vous occupez actuellement, ou est-ce que c'est encore, nous l'avons vu un petit peu, des hasards, des rencontres ?
En fait, c'est pas que je change. J'ai lu un jour un papier dans le Canard Enchaîné qui disait sa stratégie du nénuphar, mais c'était très injuste. Je vous ai dit que moi, j'étais spécialisé, si j'ose dire, dans le retournement d'entreprises en difficulté, avec des succès, parfois des succès moins évidents. Grand succès pour Air France, j'étais pas le seul, hein, c'était Christian Blanc. Succès plus mitigé sur Canal+, même si ça s'est fait. Succès indiscutable à la FNAC, moins évident sur Nouvel Obs. Pas mal ici à la Gardère Active, mais moi je suis... Donc une fois que vous avez fait cette opération de retournement, une fois que le retournement est fait, est-ce que vous restez pour soigner... je veux dire, prenons une métaphore médicale, vous avez fait la chirurgie lourde, le malade qui était en situation critique sort de sa situation critique, il est en convalescence et maintenant il va falloir faire sa rééducation. Est-ce que la personne qui a fait la chirurgie lourde est la mieux placée pour faire la phase d'après? Pas forcément. Parce que souvent la chirurgie lourde, ça a été chaud comme période. Et donc, il faut peut-être que d'autres prennent le relais et soient plutôt dans une stratégie de développement de long terme. Donc c'est pas par une forme d'infidélité que je... C'est des cycles, en fait, c'est des cycles de 5 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire passer une entreprise qui va mal, pour la faire repasser dans le vert. Moi, j'aurais bien aimé changer, mais à ce moment-là, Air France, le gouvernement a décidé de virer Christian Blanc, je suis parti. Canal+, l'actionnaire a choisi de se séparer de Pierre Lescure, je suis parti. À la FNAC, c'était un peu différent. À la FNAC, j'étais au bout d'un cycle et quelqu'un m'a proposé, Pierre-Claude Perriel est venu me proposer de faire autre chose, ça m'intéressait. Comment est-ce que ça vous vient? Parce que les gens vous ont vu ce que vous avez fait dans les journaux, je ne sais pas où, je ne sais pas comment ils savent, et ils vous font... Par exemple, quand j'étais à Canal+, j'avais été contacté par le groupe Pinault pour venir travailler avec eux. À l'époque, je leur avais dit, écoutez, non, je ne peux pas, je suis à Canal+. Et puis quand ils ont vu 7 ou 8 mois plus tard que je quittais Canal+, ils m'ont refait signe. Voilà, donc c'est comme un mercato dans des clubs sportifs. Les types vous voient jouer et ils se disent, je vais aller plutôt que les joueurs, c'est les entraîneurs. Est-ce que vous venez entraîner mon équipe ?
Vous êtes aujourd'hui au groupe Lagardère, plus précisément la branche média du groupe, intitulée Lagardère Active, et vous êtes également directeur d'Europe 1. Quels sont, peut-être, les, vous pourriez nous préciser, puisque c'est vrai que pour un normalien, les groupes, les sous-groupes, les filiales, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez obscur. Quelles sont les activités d'un groupe comme Lagardère ?
Le groupe Lagardère, il a 4 activités principales. Il doit être le 2e ou 3e éditeur de livres mondiaux. Ça, c'est la branche Lagardère Livre. Comme c'est un groupe international, c'est Lagardère Publishing. Il a une autre activité historique qui est des boutiques, des commerces dans les aéroports et les gares. Autrefois, c'est parti de l'activité de vente de presse relais dans les aéroports ou les gares. Et c'est devenu une deuxième branche qu'on appelle en bon français, puisque là encore c'est un groupe international, Travel Retail. Donc c'est le commerce dans les centres de voyage que sont les aéroports et les gares. Il y a une troisième branche qui fait de l'achat et de la vente de droits sportifs. Et puis il y a une quatrième branche qui est la branche média, c'est celle que je dirige. Cette branche elle-même, elle est composée de 2 ensembles à peu près équivalents. La presse, Paris Match, Elle, le journal du dimanche, Télé 7 jours, et l'audiovisuel, avec des radios, Europe 1, Virgin, RFM, des télévisions, Gulli, et une activité de production audiovisuelle. Et puis transversalement, on a des activités numériques qui sont soit des sites de nos médias, europe1.fr, elle.fr, soit des sites qu'on a développés comme Doctissimo, boursier.com, voilà. Voilà ce que c'est que... Donc il y a un groupe, Lagardère, qui a 4 branches. L'une de ces branches, Lagardère Active, c'est la branche média, et dans cette branche média, il y a plusieurs activités.
Avec le recul des années et l'expérience que vous avez eue, que vous a apporté l'ENS ?
D'abord, une époque heureuse. Moi, j'ai adoré. J'ai découvert assez tard, j'ai toujours lu, même quand l'école ne m'intéressait pas. Je ne parle pas de l'école normale, je parle de l'école tout court. Et je suis devenu un bon élève très tardivement. J'ai commencé à me réveiller en première. Et donc, j'ai eu un immense plaisir au travail intellectuel. Qui me manque d'ailleurs. C'est quelque chose qui me... Parfois, j'ai le remords de ne pas en avoir fait mon métier. Mais donc ça, j'ai adoré l'hypocagne et la cagne, même si c'était un peu du bourrage de crâne. Et j'ai adoré l'atmosphère intellectuelle de l'école normale. Mes meilleurs copains datent de cette époque. Il y avait une espèce d'émulation intellectuelle, de liberté... de gratuité, entre guillemets, des échanges. Ça m'a deuxièmement donné une machine à trier les données, une machine intellectuelle à trier les données, à formaliser, à exposer, à comprendre, à analyser, à synthétiser, absolument remarquable. Donc moi, je dois beaucoup... je ne sais pas si c'est l'école ou l'Hippocagne et la Cagne, mais en tout cas cet ensemble-là, disons que mon outillage intellectuel vient de là.
Et vous changeriez quelque chose avec le recul ? Vous avez des regrets ? Vous parlez un petit peu de faire peut-être parfois autre chose, peut-être une vie plus intellectuelle, ou sans regret par rapport à tout ce que vous avez pu réaliser ?
Je ne peux pas dire que j'ai des regrets, parce que j'ai fait des choses très intéressantes, très motivantes et très stimulantes. Mais je me souviens très bien de ce que m'avait dit François Furet, avec qui j'étais très lié. Et au moment où je lui ai dit « Écoute, écoutez François, on travaillait ensemble à la Fondation Saint-Simon. » Et je lui ai dit « Je vais arrêter tout ça et je vais rejoindre Air France. » Il m'a dit « Rejoindre Air France, vous quoi faire ?» Je lui ai dit « je vais travailler en entreprise. » Il m'a dit « Mais Denis, mais c'est absurde. » Je lui ai dit « Mais pourquoi François ?» Mais parce que des mecs qui peuvent faire le DRH, pour lui, DRH, c'est ce qu'il y avait de pire. Le DRH d'Air France, mais il y en a des milliers. Alors que des gens qui peuvent produire des concepts, de l'analyse intellectuelle, il y en a très très peu. Donc quand on a cette faculté-là, et cette formation-là, on la cultive. Donc votre destin, c'est le Collège de France, c'est pas Air France. Et il m'arrive souvent de repenser à ça, en me disant, j'aurais toujours... au fond, sans doute, le regret de ne pas avoir cultivé ce travail peut-être un peu obscur, sans doute un peu aride, mais qui fait progresser l'humanité au profit de quelque chose qui disparaîtra avec moi. Je veux dire, d'une œuvre intellectuelle, il reste quelque chose. Je ne dis pas que j'aurais été capable. Je ne suis pas sûr que j'aurais écrit « Penser la Révolution française », mais... ou de la démocratie en Amérique. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que je fais moi n'existera plus après moi. Je veux dire, vous redressez une entreprise, et heureusement d'ailleurs, l'entreprise se survit, mais vous... donc il n'y a pas ce côté levier d'Archimède. Voilà. Bon, enfin, ça ne m'empêche pas de dormir, et puis je suis content que d'autres le fassent, sans doute avec beaucoup plus de talent que je ne l'aurais fait moi-même.
Et un des thèmes de Penser la Révolution, auquel je tiens beaucoup encore aujourd'hui, c'est précisément qu'il n'y a aucune cause de la Révolution qui explique sa grandeur, son caractère torrentiel, son importance, parce que une fois que l'événement a pris chair, a cristallisé, il échappe à toute causalité.
Questionnaire, si vous voulez bien, votre mot préféré, François Furet ?
Mélancolie.
Le mot que vous... C'est un très joli mot. Le mot que vous détestez ?
Concupiscence. C'est vraiment affreux. Ouais.
Votre drogue favorite ?
La télévision.
Le son, le bruit que vous aimez ?
La pluie.
Et le son, le bruit que vous détestez ?
La débroussailleuse.
Votre juron, gros mot, blasphème favori ?
Connard.
Ah, ça vise quelqu'un, de précis ?
Oui, c'est courant dans mon vocabulaire.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Mirabeau.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ?
Le vôtre.
Ah oui, pourtant bien agréable. Oui,
mais je ne saurais pas.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Chèvrefeuille.
Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, François Furet ?
Entrez vite, vos proches sont là.